Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spotzle, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 130, ici Richard Delhomme. Décidément, les éléments se déchaînent et se liguent contre nous. Cette semaine, j'aurais dû enregistrer un débrief avec Clément Clisson et Éric Leblacher. Malheureusement, une tempête et une panne chez Facebook ont eu raison de cette excellente idée. Et depuis plusieurs semaines, je galopais derrière un individu singulier, barbu, qui avait décidé de parcourir les trois grands tours en mode bikepacking. Et finalement, hier, au miracle, il avait accès à un ordinateur. Voici donc le jour tant attendu, le jour où le grand Maximilian Schnell va me dire comment il a roulé 20 000 km à vélo depuis le mois de mai. Cependant, une petite erreur s'est glissée dans l'épisode. Vers la fin, nous parlons du Honduras et je raconte un truc. Eh bien, ce n'est pas le Honduras, mais le Salvador. Et le photographe en question est Christian Poveda. Vous trouverez deux liens dans la description de l'épisode pour aller un petit peu plus loin. Et sans plus attendre, donc, Maximilian Schnell. Eh, dis donc, c'est pas facile de t'avoir, toi.
Je suis désolé, j'ai l'impression d'être un ministre, alors que trop pas, je passe ma vie sur le vélo à rien faire.
Je m'abstiendrai de commentaires sur ce point de
et
détail.
Et en plus, je me dis...
Mais en tout cas, ça y est, on y est.
Ok, super. Eh ben génial. On va espérer que ça tienne, mais il n'y a pas de raison.
Ouais, écoute. On va s'y mettre tout de suite. On va attaquer dans le vif du sujet. Maximilian Schnell, bonjour. Et moi, j'aimerais savoir combien tu as de kilomètres depuis le mois de juin. À peu près. Combien tu as parcouru à vélo de kilomètres depuis le mois?
Bonjour Richard, combien de kilomètres?
Bonjour
Maximilien. Alors, t'aurais pu me dire déjà d'ouvrir Strava pour que je fasse le calcul parce que j'en sais rien. Donc, je vais te dire un chiffre comme ça, je dirais 20 000.
Ouais. Depuis le mois de juin. Là, on est le 7 octobre.
Ouais. Non, alors 15 000 peut-être. Si j'inclus le mois de mai 20. Ouais. Donc, mai 15 000 et... voilà.
Bon alors, ben oui, mais, non, je suis désolé, mais c'est de ma faute, je suis bête. Le mois de mai, en comptant, bah oui, évidemment, en comptant le Giro.
Alors là, ouais, bah, dans ce cas, je suis sûr de moi, c'est plus de 20 000.
Ouais, plus de 20 000. Donc, 20 000 km, mai, juin, juillet, août, septembre, tout début octobre. Et ça comprend le Giro, le Tour de France, la Vuelta.
La moitié de la Vuelta. Ouais.
La moitié de la Vuelta. Tout ça en mode bikepacking et sans aucun transport externe. Donc, tu as rallié le départ du Tour et tu as parcouru le Tour de France, le même parcours que les pros en mode bikepacking. Tu as rattrapé le Giro. Après, tu as fait le Tour de France et ensuite, tu as rallié le nord de l'Espagne. Donc, tout ça à vélo.
Exactement. Par contre, je te corrige vite fait. Sans moyen assisté, c'est vrai jusqu'à la fin de la Vuelta. Après la Vuelta, une fois que j'ai abandonné le projet, j'ai pris deux trains. Et voilà. Voilà.
D'accord.
Me protéger si après on vient râler en disant « C'est bizarre, t'as fait Madrid-Santander et je vois pas la trace. » En effet, il n'y a pas de trace. J'étais en retard pour rejoindre ma copine et donc hop, j'ai pris un train pour me téléporter.
D'accord. Et là, tu es où ?
Là, je suis à Zurich, chez mes parents et je repars demain. Enfin, je suis arrivé il y a deux jours, j'en avais un peu marre de me cailler dans les Alpes. J'avais du boulot, je me suis dit peut-être que Richard il sera dispo et je fais ça. Et demain, je repars direction l'Autriche avec un petit détour dans les Alpes italiennes.
Tu fais donc là, en fait, techniquement, histoire d'être précis jusqu'au bout, tu rejoins ta copine qui déménage à Vienne. Et tu vas à Vienne à vélo ?
Et je vais... Non, en fait, la partie est de l'Autriche ne m'intéresse pas trop. Donc, je vais jusqu'à Innsbruck à vélo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la... sur la latitude de Munich et après je prends un train de Innsbruck à Vienne parce que ça m'intéresse moins et que maintenant les beaux jours sont comptés, donc j'en profite pour faire les régions qui me tiennent vraiment à cœur.
Ouais, enfin bon, Innsbruck qui est sur la latitude de Munich, je suis désolé, mais c'est quand même le béaba, ça, hein, tout le monde le sait. Hein. Faut pas être
C'est pas
désagréable,
moi
mais
qui l'ai dit, hein.
quand même, c'est tout de même.
Moi, je veux
Qu'est-ce
pas
qui t'a
paraître
pris?
prétentieux et mépriser tes auditeurs, et voilà. Ouais.
Non, mais moi, j'en ai rien à
D'accord.
foutre d'être prétentieux, je le sais que je suis un branleur, donc il n'y a aucun problème. Et j'assume de A à Z, donc allez-y, c'est pas un problème. Et puis aujourd'hui, vous pouvez noter que le branleur donc fait son épisode depuis la salle de jeu des enfants. Donc vous pouvez voir une magnifique décoration toucan. Et voilà, avec un magnifique soleil et la collection de peluches de mes petits. Donc aujourd'hui, c'est en blanc, c'est ambiance kindergarten, pour prendre une expression que tu
Je
comprendras.
comprends.
Et voilà, donc impeccable. Moi, ce que j'aimerais savoir également, c'est qu'est-ce qui t'a pris de te dire, tiens, j'ai un peu de temps libre, j'aime bien faire du vélo, et bah, je vais aller faire les trois grands tours en mode bikepacking, quoi. Les Tours de France randonneurs, c'est sympa, les trucs à la Lachlan Morton, c'est sympa, mais c'est pas assez. Alors, je vais faire les trois enchaînés. Bam!
C'est super, c'est super progressif, ça m'a pas pris comme ça, évidemment. Ce qui se passe, pour te la faire courte, c'est qu'en octobre dernier, post-Covid, etc., j'étais en Italie, en vacances en Sicile avec ma copine, et le jour où elle part, en fait, je réalise que 3 jours après, le Giro commence en Sicile et finit à Milan. Et je me suis dit, parce que moi, de base, je fais tous mes trajets à vélo, et c'est vrai que parfois c'est pénible, et je me suis dit, oh non, rejoindre mes parents ou pour rejoindre Paris, pour revenir un peu dans l'Europe centrale, je dois quand même me friter toute l'Italie. Et le fait de voir le Giro faire ça, je me suis dit, ah, mais ça peut être super marrant, je vais les accompagner. Et en fait, j'ai regardé les étapes et j'ai vu qu'il y avait des transitions quand même de bâtard, quoi. Enfin, vraiment des transitions qui faisaient la distance des étapes. Et je me suis dit, après, ah, ça va peut-être pas être aussi simple. Et en fait, au bout de la cinquième étape, j'étais cuit. Manque de sommeil, froid. Et c'est là qu'a mûri un peu le sujet. Je me suis dit, c'est un beau projet ultra. Je fais pas de l'ultra sur une semaine ou 2 semaines, comme on le connaît avec les courses. Mais sur 4, 5 mois, je me suis dit, ça peut être vraiment chouette de concevoir un projet genre vraiment long, vraiment qui m'impressionne et qui me permettra de me tester vraiment. Et c'est comme ça que c'est né. Après, je suis entré en contact avec mon sponsor qui a trouvé l'idée géniale. Et en fait, le fait d'être rassuré par le fait qu'il trouvait ça sympa, ça m'a poussé un peu aveuglément à dire, bon, bah, go, ça me fait un bon projet pour cet été, qui m'a permis de rêver tout l'hiver, d'organiser. Le problème quand t'es nomade et qu'en plus t'es freelance, c'est que je dis souvent, il y a pas de liberté sans contrainte. Et en fait, il y a des phases de ma vie où j'ai aucune contrainte. Et donc, finalement, tu fais rien, tu patauges, t'as beau faire du vélo, il n'y a pas de projet. Et le fait d'avoir ça pendant un an, ça a guidé un peu tout ce que je faisais, tout ce que j'organisais, mes entraînements, mon côté, combien est-ce que je dois gagner pour après ne pas travailler pendant 5 mois. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée.
Tu es traducteur freelance, c'est ça?
Oui, alors ça change un peu en fonction des périodes et de mes envies. C'est-à-dire que quand je rentre à Paris, je suis livreur à vélo. Quand je suis en route, c'est plutôt de la traduction. Je fais aussi maintenant de la rédaction d'articles. Donc, oui, je suis plutôt traducteur, mais je suis pas arrêté à ça.
Tu parles quelle langue?
Je traduis en français, en allemand et de source l'anglais, mais je traduis pas vers l'anglais. Pareil avec l'espagnol. Ouais. Tu sais, c'est l'avantage d'avoir une enfance traumatisante où tes parents, tous les 4-5 ans, ils décidaient de bouger. Donc toi, tu pleurais parce que tu quittais tes potes. Mais derrière, c'est sympa parce que tu as quand même une aisance dans les langues qui est chouette. Et qui, moi, en tout cas pour mon style de vie, permet vraiment d'en tirer profit, quoi. Je pense que mes deux frères qui sont beaucoup plus Sédentaire en profite beaucoup moins, mais quand tu es sur le vélo, la traduction, c'est quand même c'est génial parce qu'il n'y a aucune entreprise qui veut des traducteurs internes maintenant. C'est un métier externalisé, si ce n'est même robotisé.
Complètement externalisé, ouais.
Ouais.
En plus, ouais. Qu'est-ce que tu as fait d'octobre à mai quand tu as où est-ce que tu où étais-tu et qu'as-tu fait pendant ces mois d'octobre à mai où tu as rêvé à ton projet?
Ah oui, octobre. J'ai quand même toujours la bougeotte, même quand j'ai pas de projet, je bouge. En fait, je rends visite à des amis et eux ne sont qu'en fait une excuse pour bouger et découvrir des nouvelles routes. Donc j'ai beaucoup roulé dans le sud-est de la France parce que le climat y est clairement sympa, même en janvier, février, mars. Donc j'ai énormément roulé ces 3 jours et pour le mois de novembre, je l'ai passé entièrement en Allemagne. À l'époque, ma copine était à Düsseldorf. Donc ça, c'était un mois où j'ai fait que de la traduction. On en vient au mois de décembre où j'ai roulé pas mal, mais à Paris, plutôt de la livraison. Et après, avril, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon sponsor. Ils m'ont donné le prototype avec lequel je devais rouler. Donc je suis allé le tester tout le mois d'avril et après c'était déjà mai et c'était le moment de partir parce que pour être fin mai à Turin au départ du Giro, ben, je suis parti début, non, même fin avril de Paris.
Bon alors, et c'est quoi ce vélo?
C'est le Gravel Titan 900 de Triban. Mais on l'a modifié en route, c'est-à-dire qu'on a changé les jantes, on a mis des jantes route, on a rajouté un moyeu dynamo pour que je ne sois pas obligé de m'arrêter toutes les 2 nuits en hôtel, parce que finalement l'hôtel c'est... Oui, tu dors mieux, mais c'est aussi beaucoup de temps d'arrêt. Donc principalement ça, plus je leur ai dit le monoplateau c'est pas possible. J'ai fait le mois d'avril en monoplateau et je me rappelle, oh là là, dans l'arrière-pays niçois. Les 100 premiers kilomètres, ça va. Les 200 d'après, je m'énervais contre moi-même. Et en fait, je réalisais que je m'énervais parce que j'arrivais pas à pédaler tranquillement. Donc voilà, c'est ça le vélo.
Qu'est-ce qui t'a chiffonné avec le monoplateau quand tu dis j'arrivais pas à pédaler tranquillement? Ça veut dire que t'arrivais pas à trouver ce fameux entre-deux confortable?
Alors, sur les 100 premiers bornes, oui. Parce que t'es frais, parce que de toute façon je suis coursier donc j'ai toujours 12 kilos sur le dos donc c'est quelque chose que t'arrives à emmener, mais passer le deuxième, troisième col, tu sais, tu commences à passer un quart d'heure en danseuse et tu dis non, mais ça va pas là en fait, je suis pas en train de pédaler, je fais quelque chose qui ressemble plus à de l'escalade. Et donc ça en fait, ça me fatiguait, ça m'énervait, du coup je pompais dans mes réserves. Et je leur ai dit, en fait, j'ai pas les cuisses qu'il faut pour monter un vélo de 25-30 kilos pendant 200 km tous les jours avec un monoplateau. Donc, ils m'ont fait un double plateau et ça, c'était génial. Ça a changé ma vie.
Est-ce que c'était simplement le monoplateau ou peut-être simplement un problème de rapport sur le monoplateau, peut-être? Peut-être que tu avais simplement trop gros, peut-être, ou mal étagé. Peut-être que c'était. Faut pas juste peut-être reporter la faute sur le concept même du
Ouais,
monoplateau.
alors oui, c'est oui, ça, t'as peut-être raison. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai
Je
même
sais
pas
pas.
réfléchi au problème. J'ai dit, les gars, c'est juste pas possible. Dans les descentes, je peux pas relancer. Donc, tu vas me dire en ultra, c'est pas grave, tu t'en fous si tu fais du 60 ou du 70 en
Oui.
descente. Mais quand même, en fait, t'as toujours la notion de plaisir. Et quand t'es en train de descendre le Mont Ventoux et que tu peux pas en donner un petit peu pour aller prendre de la vitesse, c'est quand même dommage. Donc en fait, ouais, c'est peut-être le ratio. Après, je sais pas si eux, de leur côté, avaient la mécanique nécessaire et si le vélo permettait aussi de prendre un étalage plus grand. Donc c'était plus simple de faire double plateau. Moi, j'ai toujours roulé sur du double plateau et donc je savais que ça me convenait. J'ai traversé les Andes avec un double plateau. Donc je savais que je monterais tout en double plateau et que j'arriverais à m'amuser dans les descentes. Et bon, ça, franchement, il y aurait peut-être eu un meilleur choix qui aurait été ce que tu as proposé, mais en tout cas, je savais que là, on partait sur quelque chose qui me conviendrait, et donc j'aurais plus d'excuses.
Et puis en plus avec un délai quand même relativement court, parce que ça c'était avril et tu partais en mai.
Ouais.
Pardon.
Alors,
On a tous été un peu malades ces dernières semaines, ces 2-3 dernières semaines, et moi je suis juste en train de m'en débarrasser. Et là, je rentre juste de rouler, donc j'ai en plus le côté
oui, avoir ouvert les
malade, mal,
poumons.
malade, et en plus, ouais, j'ai un peu bourriné dans les plaines de Beauce, donc du coup, là, je tousse un petit peu, donc toutes mes
T'inquiète.
excuses. Et tu me dis, ton vélo faisait 25 kilos, t'allais 25-30 kilos, t'allais pas à l'hôtel, ça veut dire que tu avais tout le barda avec toi pour être entièrement autonome. Tu as mentionné le moyeu dynamo, ça veut dire qu'en plus, tu étais mais vraiment totalement autonome. Tu avais le réchaud, la bouillotte, la bouilloire, tes charentaises.
J'avais tant de place même. Eh oui.
Ah, parce que tu aimes bien
Ah, j'aime bien les profiteuses et les
avoir de la
profiteurs.
place ou parce
Non,
que.
parce que plusieurs raisons. J'aime bien et je savais que Nina, ma copine, m'accompagnerait sur les entretours qui étaient quand même plus tranquilles. Donc je me suis dit plutôt que. Et en fait, elle s'est mise au backpacking cet été. Non, même elle s'est mise au vélo cet été. Je me suis dit, bon, bah, prends ta tente de place. De toute façon, j'avais que ça. Et il était hors de question que je rachète une troisième tente, une place juste pour gagner 1 kilo. Donc ça, plus sur le Tour de France, j'ai un ami qui m'a accompagné et je lui ai dit, bah écoute, pareil, prends pas de tente, j'en ai une de place. Donc c'est ça la raison. Plus, en effet, sous la pluie, t'es quand même content de pouvoir mettre toutes tes affaires dedans et de pas être comme ça si t'es trempé, mais pouvoir aérer un peu les parties renfermées.
Ouais, donc c'est pas uniquement parce que les Uriquois sont de grands
Alors,
romantiques.
j'ai rien de Zurichois, moi. J'ai vraiment le malheur d'avoir mes parents qui vivent ici comme des évadés fiscaux, mais moi, je n'ai rien de suisse.
Bon, bah c'est pas grave, écoute, ils sont adorables quand même. Donc, t'avais quoi alors dans ton barda de 25-30 kilos de séducteur au long cours?
Alors, j'avais les fringues d'hiver, les fringues d'été. J'avais le réchaud, la casserole, la tente de place, un duvet quand même 0 degré. Donc, ça prend, je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais c'est quand même épais, un
Pas du
0
tout.
degré. Bah, ça, en fait, ça remplit à lui tout seul une grosse sacoche de sel. Plus le
D'accord.
matelas gonflable.
Ça, c'est concret, ouais.
Ouais, ça prend de la place, mais quand je vois les températures que j'ai eues sur le Giro, je pense pas que ça a été une mauvaise décision. Plus un matelas gonflable, bah on y est, hein. On y est. Un peu de mécanique,
Ouais.
donc des attaches rapides. À un moment, j'avais même une chaîne, pas mal de chambres à air. J'en ai toujours deux ou trois. Donc voilà, ça fait vite le tour. Mais tu montes très vite à 25.
Ça va
Ouais,
vite,
bah,
hein.
en fait, dès que
Ouais.
t'as une tente,
Bon, je pense.
ça charge. Ça charge beaucoup le vélo, tant d'un point de vue visuel qu'en termes de poids.
Qu'est-ce que ça change sur le comportement général de ton vélo
Tu as un peu d'eau?
Jérémy
D'accord.
regarde.
Mais sinon, ça
Voilà.
s'utilise, hein, l'eau.
Non, mais j'ai bu à l'instant déjà, hein, t'as pas vu, mais j'ai bu une
Merde.
bichette. Qu'est-ce que ça change sur le comportement de ton vélo? Parce que c'est un truc dont on parle bah, parfois, mais j'ai l'impression malgré tout que l'on ne parle pas assez. C'est de s'entraîner aussi avec son vélo chargé pour s'habituer à la fois au poids, mais au changement de comportement du vélo, en montée bien entendu, mais aussi dans les
Alors
descentes.
moi j'allais commencer par la descente. Pour moi c'est un avantage énorme et je suis plutôt bon descendeur et maintenant quand je prends un vélo sans poids, je suis vraiment, je sais que tu aimes cette expression, une quiche. Vraiment, parce que ça te donne tellement de stabilité, surtout quand tu charges à l'avant. Oh là là, c'est incroyable les trajectoires que tu es capable de prendre dans les virages, du coup le peu de relance que tu dois faire derrière. Ça, c'est clair que c'est un avantage énorme, même en gravel, je trouve. Même j'ai envie de dire sur un sol glissant, donc mouillé, ou même avec un peu de neige, t'as une accroche, une adhérence qui est même plus importante, je trouve, que l'adhérence que te fournissent les pneus. En revanche, en montée, comment te dire, Bah, si tu essayes de suivre un amateur lambda, bah, tu es grillé au bout d'un kilomètre. C'est comme ça. Tu vois, le Tour de France, je l'ai fait avec les filles donnant des ailes au vélo, qui font donc le Tour de France, toutes les étapes, un jour avant. Et comme un con, parfois, tu sais, t'as pas envie de lâcher le groupe et tu sais que dans la plaine, tu vas grâce à elle, tu vas rouler dans les roues et donc tu vas moins te fatiguer. Mais rien que le fait de les suivre sur 2-3 km sur une pente à 4%, ça fait que derrière, ma journée, moi, elle était pliée, j'étais dans la zone rouge pour tout le reste de la journée. Enfin, voilà, c'est incomparable, mais c'est un entraînement comme les autres. Faut juste pas comparer ses temps en montée chargée et ses temps en montée non chargée parce que c'est un autre sport.
Ouais, je garderai cette expression et je la mettrai totalement hors contexte. Et ça marchera. Il ne faut pas comparer ses temps chargés et pas chargés. Ça,
D'accord.
c'est vraiment. C'est magnifique cette
Suis
expression,
grillé,
j'adore.
c'est bien.
Ah la chaudière, quoi. Est-ce que tu avais anticipé, apparemment oui, les températures, les écarts de température que tu allais avoir sur le Giro? Parce qu'on le voit tous les ans, sur la Vuelta également, et c'est moins vrai sur le Tour de France, mais on voit souvent des étapes extrêmement spectaculaires sur le Giro avec des conditions météo
Je dois
apocalyptiques.
t'avouer que si j'avais pas fait les 5 étapes du Giro 2020, j'y serais allé totalement naïvement. J'aurais pas eu la lucidité que tu viens d'avoir toi, en me disant ouais, l'Italie, même le nord de l'Italie, même en décembre tu peux y pédaler. Ouais, c'est vrai, mais tu peux y pédaler si t'es équipé. Et donc, grâce à mon aventure 2020, où même en Calabre j'ai eu froid, je me suis dit en fait c'est. Et c'est là où je parle d'ultra sur 5 mois et pas d'ultra sur 2 semaines, c'est que sur 2 semaines, tu peux tolérer d'avoir froid. Aussi, tu peux te payer une chambre de temps en temps. Sur 5 mois, bah, tu peux absolument pas. Et donc, j'avais fait le choix vraiment, mais de manière intransigeante, de privilégier le confort à la vitesse de déplacement parce que je savais qu'il y aurait des nuits froides, je savais qu'il y aurait de la neige, de la pluie. Je pensais pas qu'il y en aurait eu autant. Et ce qui fait que rouler dans le sud-est de la France en décembre, janvier, février, mars, ça m'a permis, bah, de rouler. Mais quand même, quand je dis il fait bon, oui, mais quand tu fais des cols dans le sud-est, il fait quand même froid en hiver. Et en fait, même mon corps, c'est quand même pas mal habitué à dormir dans le froid, à descendre dans le froid, à monter dans le froid. Donc oui, j'étais préparé.
Ça t'a fait des étapes de. Tu faisais vraiment les étapes du Giro ou tu te contentais de suivre la trace et tu t'arrêtais au feeling en essayant d'avoir un petit peu d'avance sur
Alors
eux?
non, je suivais absolument pas leur. En fait, c'est leur chronologie que tu demandes. C'est ça. Je m'en fichais. Il y a des jours, je faisais 2 étapes parce qu'il n'y avait pas de transition. Donc clairement, moi j'étais déjà à l'étape, je vais dire des bêtises, mais à l'étape 15, ils venaient de finir l'étape 13. Mais parce que derrière, j'ai une transition de 400 km. Donc je sais que moi, sur la journée, je vais faire une transition pendant que eux, ils vont faire une étape plus une transition. Donc ce que je faisais, c'était d'essayer d'avoir toujours. Ouais, 200-250 km d'avance sur eux à la fin de la journée.
Et toi, quotidiennement, ça te faisait des étapes en moyenne de
Sur le
combien?
Giro, je crois que je suis à 230 pendant 22 jours, 23 jours. Sur le Tour de France, t'es un peu plus, t'es à 240. Et la Vuelta, c'est encore plus.
Et en moyenne, combien d'heures de sommeil par jour? Combien d'heures de roulage et donc par conséquent, combien d'heures d'arrêt et de
Eh
sommeil dans tout
bien,
ça?
figure-toi que je m'en sortais pas mal. Je roulais, je pense que je roulais entre 11 et 14 heures par jour. Et donc, j'arrivais à dormir en général 6-7 heures. Ouais,
Bah dis donc.
mais après, c'est l'été, t'as pas besoin de plus de sommeil. De toute façon, tu peux pas dormir plus parce que t'as beau être claqué à 22 heures, il fait encore jour, t'arriveras pas à te
Ben
réveiller,
oui.
à t'endormir. Donc, ouais.
Un petit peu moins quand Nina était là.
Oui, mais on faisait moins de roulage aussi. Hein.
Ah oui. Ah oui.
Ah
Bon bref. Bref, de toute façon, tu m'as montré les vidéos, c'est pas la peine.
ouais, mais c'est
Voilà.
exclusif hein, pour toi.
Oh là là, non, bah bien sûr, bien sûr, je sais. Et est-ce que c'était pertinent? Parce que tu me dis, ils m'ont filé un gravel Et ça veut dire que sur le Giro et tout ça, je me pose la question quand même d'avoir, bon certes c'était un proto, un truc en test et tout, mais je me pose quand même la question de la pertinence d'un gravel pour faire finalement peut-être 99% de route.
Oui,
ça
alors...
veut dire que tu avais quand même un petit peu adapté notamment la largeur des pneus.
Non. Non, parce que je t'ai dit, on a pris la base du gravel titane, mais on a changé les jantes. Donc j'étais vraiment en jante route, j'étais en pneus, ça dépend de quand, mais j'étais sur des pneus soit 32, soit 28, soit 25. Et je dois te dire que je pense que c'était le 32 le mieux finalement, parce que quand tu roules autant, c'est quand même pas mal d'avoir du confort. Et après, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est certainement pas le vélo le plus efficient qu'on aurait pu imaginer. Mais en fait, on est entré en contact très très tard. Et quand on a commencé les discussions, il restait 2-3 mois pour mon début de projet. Donc, tu connais sans doute mieux que moi l'état du marché des composants de vélo en ce moment, et surtout il y a un an. Donc, en fait, c'est déjà bien qu'on ait réussi à monter un truc avec ce qu'il y avait déjà en stock.
D'accord. Voilà. Ouais. Mais malgré tout, le choix du matériau était quand même assez judicieux finalement, parce que tu serais parti avec un carbone, ça aurait peut-être été beaucoup plus tape-cul, si on peut dire.
Ah ouais.
L'efficacité, le gain d'efficacité n'aurait peut-être pas été super spectaculaire. Par contre, tu te serais fait certainement un petit peu plus secouer les noyaux.
Oui, et puis mettre donc le... Il y avait 20 kilos de bagages, si tu enlèves le poids du vélo.
Plus,
20 kilos de bagages
plus,
sur du carbone, je ne sais pas si tu es serein. Hein. Et en fait, le carbone, je vais t'avouer un truc, j'ai jamais mis mes fesses sur un vélo en carbone. Donc, il m'aurait proposé du carbone, j'aurais dit non, on part sur de l'alu et sur quelque chose que je connais. Et voilà.
Ouais. C'est important pour toi de rester quand même sur quelque chose que tu connais et éventuellement de garder une phase d'expérimentation pour plus tard.
Non.
Mais de quand même rester sur quelque chose que tu connais pour avoir au minimum confiance en ton matériel et pas avoir à se dire ah, je vais peut-être casser un truc, de ne pas avoir à y penser.
Finalement. Sur le cadre, oui. En gros, sur tout ce que je maîtrise pas, oui. Parce que clairement, ressouder un cadre, voilà, je sais pas faire. Donc ça, oui, maintenant, ils m'ont donné une selle, par exemple, qui n'était pas du tout la selle sur laquelle je roulais. Ça, j'ai aucun problème, parce que si ça ne convient pas, il y a un décathlon tous les 50 km en France, donc je les appelle et on change de selle, point barre. Donc, tester des choses dont j'ai la maîtrise, ou typiquement, j'en sais rien, des nouvelles cassettes, etc., aucun souci, parce que c'est après la base du vélo, un nouveau matériau, non, j'aurais pas été bien.
À part le froid sur le Giro, t'as pas eu de problème ? Pas de douleur, de...
Ça s'est passé, j'ai eu un beau souci aux fesses. Dans la tête, le Giro était déjà bouclé. J'avais fait mes moyennes, il restait 4 journées. Et une journée de plage, je me suis dit, je vais mettre mon cuissard. Et en fait, je roule rarement en cuissard et je roule en cuissard qu'à la demi-journée. Je roule le matin. Je suis quelqu'un qui sue beaucoup. Donc, je ne vais pas te faire un dessin, mais la sueur, elle s'amasse logiquement en bas du dos. Et c'est pour ça, souvent, à midi, j'enlève mon cuissard, je le fais sécher et je mets mon short de running qui aère beaucoup, beaucoup mieux. Et là, je ne l'ai pas fait en me disant « Ah non, de toute façon, je suis hébergé ce soir. Je pousse, autant arriver plus vite à la douche. » Et j'ai poussé et le soir, quand je m'assois à la table... j'arrivais même plus à m'asseoir sur une chaise. Donc clairement, oui, ça a été très problématique le lendemain. Mais après, les crèmes à l'aloe vera, c'est miraculeux. Hein. Purée. Je peux vraiment conseiller ça parce que arriver à se refaire le cul sur une journée à 240 bornes, c'est quand même c'est sensationnel, quoi.
Tu permettras, je vais la noter.
Ouais, mais je te donne des pépites, comme ça, t'en fais ce que tu veux.
J'en ferai un mix et tout. J'envisageais de me mettre au dubstep, un truc cet hiver. Donc, voilà, je ferai un genre de mix Maximilien Schnell. Voilà, l'aloe vera pour se refaire le cul.
Voilà.
Je pense que ça va faire un tube.
Après, tu m'y pousses aussi, hein, c'est pour ça.
Ah, mais non, moi, j'ai rien dit là. Attends, c'est bon, j'ai rien dit du tout. Le public. Est-ce que tu as... Parce qu'on va, on va, c'est pas, c'est un secret pour personne. On l'a entendu un petit peu la semaine dernière avec Omar déjà. On sait que les Italiens sont quand même particulièrement chauvins, par exemple. Et est-ce que quand les gens te voyaient déambuler sur ton vélo, sur le parcours, éventuellement ils attendaient le passage des coureurs. Certains supporters étaient peut-être là déjà en place. Quand ils te voyaient passer, tu as eu quoi comme réaction?
Ah, sur le Giro, c'était vraiment un truc de dingue. Ils sont tellement chauds, bon, ils sont bien allumés aussi à l'alcool, hein, la veille. Donc moi, souvent, je passais les lignes d'arrivée ou les derniers cols des étapes la veille au soir, donc clairement à l'heure à laquelle eux, ils font le barbecue, etc. Et là, mais c'était le feu. Le mec en tronçonneuse qu'on a vu sur l'étape qui a été coupée par l'organisation du Giro, il m'a suivi aussi. Enfin, des trucs vraiment dingues. Et ce qui fait d'ailleurs que j'ai trouvé le tour sympa. Et la Vuelta totalement morte, quoi. Et non, en Italie, j'ai été accueilli, mais de manière géniale. C'est la seule langue que je parle pas sur les 3 tours. Et donc, j'arrivais pas toujours à me faire comprendre. Donc, j'ai expliqué un truc du genre, moi, faire Giro d'Italie un jour avant. Et après, au bout de 5 minutes de discussion, les gens, ils me disent, mais tu sais que le Giro, il passe ici demain. Donc, au bout de 5 minutes, tu réalises qu'ils n'ont pas compris ton projet parce que ton italien est trop mauvais. Mais les supporters étaient géniaux. Trop, enfin, vraiment, vraiment en feu, dans l'excès, mais tu t'en fous, toi, t'es dans l'excès aussi. Donc,
C'est ça qu'on aime chez eux de
ah,
temps en temps, c'est cet excès.
cette course, elle a quelque chose quand même que le tour, c'est différent parce que c'est une autre envergure, mais que la Vuelta n'a pas du tout, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté la Vuelta aussi.
Mais ça, on en reparlera. Mais oui, le Giro, enfin, tu vois, tout ce qu'on peut imaginer de dramaturgie, de romantisme stupide et. De vieilles images, c'est le Giro, le Tour de France, c'est sympa, mais ça n'a pas le même niveau de dramaturgie.
Moi, je suis d'accord.
Le parcours, la ferveur des supporters, il n'y a que là-bas qu'on peut trouver ça.
Ils étaient moins nombreux que sur le tour, mais ça faisait tellement plus de bruit. C'est très difficile à expliquer, mais c'est hallucinant. Enfin, c'est pas normal avec un vélo gravel backpacking à 25 kilos de se mettre en fait à faire les 4 derniers kilomètres d'un col dans les Dolomites à bloc, quoi. Pas quand tu fais 5 000 km sur le mois, mais les Italiens, ils ont la capacité à te faire sortir de ta selle, te mettre en danseuse et juste pour les satisfaire, bombarder, quoi. Et ça, c'est tu en fait on vit pour ça aussi. C'est le sport, c'est des émotions.
Explique-moi, tu m'as dit le gars à la tronçonneuse. Je suis désolé, mais là, ça nécessite quelques
Les images ont
explications.
été coupées, mais il y a un gars sur le Passo di Jao. Je crois qu'on le voit quand Bernal y passe. Il est là avec sa tronçonneuse. Il court après Bernal avec sa tronçonneuse. Et juste parce que le but là-bas, c'est de faire du bruit, hein. Et le problème, c'est que les enceintes, c'est bien. Taper dans les mains, c'est bien. Crier, c'est bien. Mais la tronçonneuse, avec un beau bazar, quoi. Et donc, j'ai la chance que, bah, pareil, c'était typiquement, il était 19 h, donc les gens faisaient déjà leur barbecue. J'arrive dans les 5 derniers kilomètres du col et il y a vraiment du monde. Et donc, le mec m'a vu venir plusieurs lacets avant. Il a sorti sa tronçonneuse et il m'a coursé, quoi. Enfin, mais génial. Il gueulait. Bon, il était totalement pété déjà, mais c'était
Mais très
très bien.
bien, tant
C'était
mieux.
chouette.
Et c'est quand même des souvenirs uniques.
Ouais.
Parce que ça t'arrivera quand même assez peu souvent dans une carrière ou dans une vie de cycliste enthousiaste, si on peut dire, de te faire, entre guillemets, pourchasser par un mec avec une tronçonneuse. Un
Ouais.
mec ivre-mort avec une tronçonneuse. On peut se faire embêter par un automobiliste, on peut se faire courser par un chien, mais courser par un mec bourré en tronçonneuse avec une tronçonneuse à la main. Ça reste assez exceptionnel tout de même.
Ouais, faut faire le Giro pour ça. Mais oui,
Voilà.
ça reste dingue. Ça reste dingue.
Après, ça dépend. Si on va dans les Vosges, ouais, je pense que dans les Vosges, on peut se faire agresser par un mec avec une tronçonneuse
Ah,
parce que
mais
bon,
lui, il
ben,
t'agresse
ça reste quand
littéralement,
même
quoi.
rural, hein. À quel niveau? Au niveau décibel?
Ça m'étonnerait qu'en plein mois de mai où il n'y a aucune cyclo qui passe et toi tu passes en cyclotourisme, que le mec il t'attende avec une tronçonneuse juste pour dire bravo, ton projet il est génial. Je pense que si le mec des Vosges il t'attend avec la tronçonneuse, c'est qu'il a autre chose de prévu pour toi, quoi.
Ouais. Et comme ils disent là-bas, tu t'en souviendras toute ta vie. Donc attends-toi. Mais bon, là-bas, enfin, bon, on en a suffisamment parlé. Hein, c'est quand même, ça reste quand même une contrée assez bizarre. Et voilà. Mais bon, moi, j'aimerais savoir un petit détail aussi. Quand tu as fait le tour de France, donc tu avais tout tes, donc tu avais tes habits chauds, tes habits froids pour le froid. Enfin, tes habits pour le chaud, tes habits pour le froid. Et tu as mis un point d'honneur à tout transporter, en fait. Donc, tu n'avais pas un genre de petit relais étape où tu pouvais refaire ton paquetage, resélectionner un petit peu ton
Non.
matériel. Là, tu avais tout, en fait. Donc, ce que tu avais au Giro, c'est ce que tu avais autour et c'est ce que tu avais également sur la
Ouais.
Vuelta. Mais pourquoi? Pourquoi
Parce
s'embêter
que je
avec un
suis
truc
trop
pareil?
bête.
Pourquoi
Y a pas de raison, je suis trop débile. Non.
Mais ça veut dire que tu regrettes quand
Non, je
même?
regarde rien du tout parce que à aucun moment le poids de mon vélo a pu mettre. À aucun moment, le physique ou le poids du vélo ou le manque d'entraînement ou la performance a pu mettre en danger le projet. La seule chose qui a faibli, c'est ma motivation. Donc, je pense que mes choix, ils auraient pu être mieux, mais en tout cas, on ne saura pas. Mais ils ont été suffisants. Et que, je ne sais pas, je pense que c'est ce romantisme du bikepacking de se dire, en fait, même si je vais passer chez mes parents, même si je vais avoir la visite de ma copine, même si je vais rendre visite à des amis en route, techniquement, je suis indépendant, je suis vraiment autonome et ça, c'est quelque chose qui moi, j'ai pas beaucoup communiqué dessus en plus, mais c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur de pas laisser la doudoune ou de pas changer de duvet. Oui, sur le Tour de France, j'aurais pu prendre un duvet plus léger, j'aurais même plus laissé la tente en fait. Et gagner 4-5 kilos. Je suis parti sur le Giro avec une capacité de 5 litres d'eau. Et j'ai jamais bu plus de 2 litres en Italie. Mais je savais qu'en Espagne, où on traverserait des 40 degrés, etc., il me faudrait 4 litres. Donc dès le début, j'ai pris les 4 litres vraiment dans l'idée de me dire. En fait, je suis voyageur à vélo. Moi, au départ, j'ai traversé les Rocheuses et les Andes à vélo en autonomie. Et moi, quand je monte un projet. Pour moi, très personnellement, c'est important de me dire, techniquement, c'est comme si je partais sur un autre continent où il n'y a pas papa, maman, il n'y a pas mon sponsor, il n'y a pas mon je ne sais quoi, et garder le plus d'autonomie possible. Mais non, je regrette pas, hein. Puis quelque part, c'est quand même, ouais, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est quand même énorme quand tu montes le Zancolan qui a les 3 derniers kilomètres. Je sais pas combien sont les pourcentages, mais c'est du délire parce que les mecs, même avec un vélo carbone, ils poussent. Et toi, quand t'arrives chargé comme un bœuf, c'est là aussi où tu reçois les encouragements de la tronçonneuse, tu vois. C'est que les gens, ils s'attendent pas à ça. C'est comme quand tu voyages avec des mômes ou quand tu voyages en tandem, tu reçois beaucoup plus d'affection de la part des gens. Que si en fait tu es en vélo normal, alors que ça n'enlève rien au cycliste normal qui monte en vélo à 7 kilos. Et je pense que ce soutien extérieur ou même le fait de voir l'étonnement dans le regard des gens, ça fait partie du défi, ça fait partie du voyage parce que c'est très beau de faire les choses pour toi, mais si toi tu peux bouger les choses, créer la curiosité, c'est un message qui moi me tient à cœur aussi.
C'était important pour toi d'être absolument autonome. J'ai l'impression, tu vois, à t'entendre, c'est une impression, hein, c'est juste une sensation comme ça. J'ai l'impression que c'est une revanche
Mais sur quoi?
de se dire je suis autonome, j'ai besoin de personne, il n'y a pas papa, maman, je me suis fait trimballer dans ma jeunesse de gauche à droite d'un pays à un autre.
Non.
Alors maintenant, allez vous faire foutre, je me déplace tout seul.
Non. J'ai une. Alors. Mes pauvres parents, faut pas qu'ils écoutent ça. J'ai une très belle enfance.
Ah non, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. Mais tu peux te dire, bon, bah maintenant, je fais
Non.
autrement. Ça
Non.
n'empêche
Je
pas.
pense que c'est juste que mes modèles ressemblent plus à Mike Horn qu'à Egan Bernal. Et que quelque part, c'est peut-être une envie de faire un mélange entre les deux, mais je trouve vraiment l'idée d'être autonome, ouais, romantique, c'est pas le bon mot, mais ça a une certaine saveur, c'est hyper gratifiant, donc voilà. Mais voilà, je trouve pas les bons mots, mais non, je pense pas que ce soit une.
Alors, c'est pas grave. Tout à l'heure, tu m'as également parlé du romantisme du bikepacking. C'est quoi ce fameux romantisme du bikepacking?
Ben
Ça veut
viens
dire
avec
quoi?
moi, tu vas le découvrir.
Non, 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 laisse tomber. Ça, c'est pas pour moi, ces trucs-là.
On
Laisse
fait tant ta
tomber.
part, hein, t'inquiète.
Allez. Allez. Non, non, ben. Non, non, mais ça, déjà, c'est. Enfin, ça, je m'en fous. On pourrait dormir ensemble, là, au contraire. Hein, ça, tu sais, c'est pas un problème. Hein. Mais par contre, non, moi, aller pédaler 5 mois ou même une semaine d'affilée, laisse tomber, quoi, j'ai autre chose à foutre. Je suis désolé de te le dire comme ça. Mais par contre, j'aimerais bien que tu me dises ce qu'est ce fameux romantisme du bikepacking. Parce que malgré tout, même si je me moque, je vais quand même y venir certainement l'année prochaine. Donc j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble.
Je vais répéter des choses, mais c'est s'arrêter quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, chez qui tu veux, des choses comme ça. Et cette chose indescriptible qui se dit, en fait, si aujourd'hui j'ai envie de faire que 25 bornes et dormir à 3000 mètres d'altitude, je peux le faire parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin sur moi. En revanche, si j'ai envie de faire 200 bornes parce que j'en ai marre d'être toujours dans la même région sur une carte, je peux le faire aussi. Ouais, c'est vraiment élargir les champs des possibles, c'est ne pas partir sur une boucle. Si tu voyages en van ou si tu as un train aller, un train retour, tu sais où ça commence, tu sais où ça finit, tu sais en général par où tu vas passer, tant dans l'espace que dans le temps. Et ça, tu l'as plus en fait. À partir du moment où tu considères presque, ouais, moi je dis toujours je vis sur mon vélo, c'est assez vrai. Et quand tu dis en fait ma maison c'est ça et je peux m'arrêter où je veux quand je veux, je peux pédaler comme je le veux. Ouais, c'est quand même super chouette.
Et là, la perspective de te poser à Vienne avec Nina, ça t'angoisse pas? Parce que finalement, tu vas avoir des étagères, des penderies, un lit propre tous les soirs. Tu vas dormir avec la même personne tous les soirs. C'est l'angoisse ou au contraire, c'est un moment de ressourçage, ressourcement, ressourcerie? Je ne suis pas sûr du
Je
mot
l'ai pas non
correct
plus, mais
là.
j'ai à peu près compris.
Tu as compris l'état
J'angoisse.
d'esprit? Ah ouais?
Ben,
Pourquoi?
pour moi, emménager chez quelqu'un. Alors, attends. Déjà, on va remettre les choses en perspective. Je vais pas me poser chez elle. Hein. Je vais passer 3-4 jours.
Ah oui, tu
Non,
gardes ta tente et tu vas dormir sous un pont à Vienne. D'accord. Ça, c'est romantique.
tu vois, tu
Non.
commences à comprendre les choses. non. Je vais chez elle. Vienne, ce sera mon point de chute, mais je pense que je ferai des boucles autour. Je reviendrai. Enfin, pareil, elle est en coloc. J'ai pas envie de squatter chez les gens. Ça correspond pas non plus à mon style de vie. Je pouvais le faire il y a 4 ans, mais aujourd'hui, ça me gêne au bout d'un moment. Donc clairement, non, ce serait la hantise de me poser. Et si là, on avait convenu avec Nina que non, d'ailleurs, on n'aurait pas convenu parce que moi, je suis aujourd'hui dans l'incapacité de dire ouais, bah viens. Je me pose à Vienne ou même à Paris, hein. 3 mois. Oh non, j'ai des boutons qui poussent, c'est pas possible. Donc clairement, oui, c'est plutôt l'angoisse. Mais c'est comme si demain je te disais exactement ce que tu veux pas faire. Eh hey, vas-y, prends ton vélo et t'as plus le droit d'aller chez toi pendant 4 mois. Mais je pense que tu te poserais pas mal de
Oh
questions
là,
aussi.
les
Tu dis, ouais,
boomers.
ben voilà.
Oh, ça me
Ben
gonflerait
moi, c'est
grave.
pareil.
Oh. Et quand tu faisais le Tour de France, les filles donnant des ailes au vélo, elles te regardaient comment? Oh, l'arrêt sur image, bouche ouverte avec la langue pendante. Non,
Non,
c'était même pas un arrêt sur image, c'était une blague, pardon.
c'était ma réponse. Non, le
D'accord.
premier.
Alors ouais, elles te regardaient comment? Parce que bah, on les voit tous les étés. C'est super ce qu'elles font. Enfin, c'est super d'ailleurs. Enfin, c'est pas super. Il n'y a aucune raison que ce soit pointer ça comme un truc génial ou exceptionnel. C'est tout aussi con. Donc voilà, je suis en train de creuser ma tombe tranquille. Là, je réfléchis à comment je vais m'en sortir délicatement. Donc elles te regardaient comment?
Je
Parce que
pense que les...
que été, fringues légères et toi
Les premiers jours, je pense que plutôt pas apeuré, mais quand même un peu sur la défensive, parce qu'il y a eu plusieurs accidents. Donc quand tu arrives avec un bulldozer, bah, logiquement, tu es un peu la personne qui est différente, qui risque de rouler différemment, d'avoir un comportement différent. Donc tu as un risque, ce qui est tout à fait normal. En plus, il pleuvait. Et très rapidement, on a sympathisé. Et là, franchement, oui, il y a une complicité qui s'est installée. Il y a une nuit où on a squatté dans leur hôtel. On a dormi à la réception. En fait, on ne pensait vraiment pas arriver aussi loin ce jour-là. Et avec mon pote, on a poussé, on a poussé. On avait leur hôtel. Et en fait, on a directement toqué. On a pu mettre les matelas à la réception. Donc non, on a partagé de manière totalement différente. On a quand même partagé beaucoup de bornes ensemble. Du coup, logiquement, tu as une camaraderie qui se crée.
Ouais. Et t'as pas suscité de vocation, disons, l'année prochaine, on arrête avec l'hôtel et on part avec la guitoune, le matelas et on dort dans les champs. Ou vraiment, il y a toujours cette petite, comment dire, mais qu'on a tous, hein, moi le premier, hein, dormir dans un fossé, non. Cette petite appréhension de partir en autonomie totale.
Si, alors chez les filles, je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, il y a un copain d'une des filles qui faisait le tour aussi, donc qui les accompagnait, qui part là en novembre dans le sud de l'Espagne, 3 semaines en backpacking. Donc si, bien sûr que ça suscite du mouvement, des changements de comportement, ça c'est clair. Et moi, je
Chez les
m'en
filles.
réjouis. Chez les filles directement, je sais pas. Et il faut aussi voir, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une restructuration de leur côté qui fait que, en plus, maintenant, il y a un Tour de France féminin. Donc quelque part, elles doivent
D'accord.
redéfinir le défi, enfin le projet, puisque le projet, c'est plus de créer un Tour de France féminin, c'est de vraiment féminiser le cyclisme. Mais pour moi, ouais, enfin, je refais un gros appel de phare, mais ça passe par le bikepacking, parce que c'est le vélo de demain. Que tu le veuilles ou non, c'est le vélo de demain.
Bah oui, parce que le Tour de France élite, enfin le Tour de France Pro Paris-Roubaix, ça concerne
Oui, et
ça,
ça a
quoi.
commencé. Ça a
Et
commencé, le bikepacking n'est rien de nouveau, hein.
ça concerne vraiment qu'une minorité. Et en plus, enfin, c'est comme se dire, tiens, les jeunes passent de moins en moins le permis de conduire, alors on va mettre plus de Formule 1 à la télé. Ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est pas avec ça qu'on donne envie. Là, tu vois, par exemple, il y a plusieurs mois, j'avais fait un épisode génial avec Caroline Ferguson, et elle avait été obligée de reporter déjà son projet de Tour du Monde. Et là, ça y est, ils sont partis avec David. Ils sont au fin fond du Yukon, à se cailler les meules. Et je trouve ça génial, tu vois, parce que ce truc-là, de Nom des Ailes, elle l'a fait. Elle a fait la raf, elle a fait plein de trucs géniaux, Caro. Et là, ça y est, elle est sur son voyage au long cours avec son mari. Et c'est bien plus intéressant que. Enfin, moi, je suis bien plus fasciné de regarder les images et les histoires racontées par Caroline plutôt qu'une fille qui va dire, oh, super, j'ai fait le premier Paris-Roubaix féminin. J'en ai rien à foutre de ça.
Mais
Ça m'intéresse pas
il y a
du
des
tout.
symboles. Et le problème, c'est les symboles,
Ah oui, non, mais
ils sont véhiculés par
il y a des marques.
l'élite.
Il y a des marqueurs sociétaux et des marqueurs qui montrent que ça y est, on est dans un mouvement et dans un changement sociétal profond. Et ça, c'est très intéressant. Mais et ça, c'est global. Mais d'un point de vue purement personnel, je préfère regarder les paysages du Yukon avec Caroline. Parce que bon, les pavés du Nord, on les connaît, quoi. Surtout dimanche, sous la pluie, on voyait rien. Donc,
Je sais pas, j'ai pas
c'était
regardé.
t'as pas regardé, t'as revisité Zurich, Zurich, la Zurich, la
Exactement.
sableuse. Et dis donc, si tu me parlais des Andes et des Rocheuses, parce qu'on a parlé de ce projet-là en particulier, mais j'ai l'impression que tu n'es pas non plus un débutant en voyage au long cours.
Non, du tout. Tu veux que je te dise quoi sur les Andes et les Rocheuses? C'est haut, hein, c'est sacrément haut. Tu prends les. Tu.
Ah, dis donc, ah, c'est un scoop ça, hein. Alors, avis aux amateurs de géographie et de géologie diverses, typologie de terrain et concentration des conifères, les Andes, c'est
Il
haut.
aura pas une, il aura pas
Génial.
une pour se
Merci,
foutre
merci, merci. Hey,
de
merci Jamy, hein, vraiment. Hein. Merci Jamy.
Non, je dis ça parce que ce que je trouve très drôle, c'est toujours à quel point on pointe la difficulté des cols. On m'a dit, oh purée, t'as monté le en colonne avec 25 kilos. Et oui, c'est pas facile, c'est raide, mais ce qui est incroyable, c'est que ce qui est ici vu comme le plus dur du cyclisme en Équateur, c'est une blague, quoi.
Mais ça, enfin, ça, on en a déjà parlé, on le sait, ouais. Mais c'est parce que l'histoire du cyclisme fait que la mythologie s'est passée dans l'Izoard, dans le Ventoux, dans le Zoncolan, dans le Passo truc. Mais sauf que oui, on le sait qu'en Amérique du Sud, il y a des trucs bien plus hardcore que ça. Ça, on le sait. Mais par contre, sur le terrain, ça donne quoi alors? Comment tu t'es retrouvé à partir là-bas?
Je me suis retrouvé à finir mes études en école de commerce et avec un ami, on avait l'idée de faire un voyage comme ça, de césure en fait. Et on s'est dit, on traverse l'Amérique du nord au sud, donc en partant d'Alaska et en descendant jusqu'à Ushuaia. Descendre n'est pas le bon terme parce que, bah, je le répète, mais ça monte beaucoup. Bref, et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-dessus. On a fait 6 mois ensemble jusqu'au Panama, et j'ai fait la deuxième partie jusqu'à être arrêté au Chili par le Covid seul. Et tu veux que je te raconte quoi? C'est ouf. Pour moi, c'est l'expérience.
Ben, là, tu vois, parce que tu vois, autant tu me parles de faire le Giro, le Tour et la Vuelta en bikepacking, non, là, ça ne me fait pas rêver, je t'avoue tout de suite. Mais par contre, tu me parles d'Ushuaia, de Patagonie, de Panama. Là, j'avoue que ce sont des destinations qui résonnent un tout petit peu et j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que c'est extrêmement lointain. Tu vois, l'Espagne, l'Italie, on peut y aller, on a tous plus ou moins. Enfin, c'est facile d'aller passer ses vacances en Italie ou en Italie. Le Panama, on n'y va pas tous les jours. Et Ushuaia, il faut quand même se taper la route jusqu'au fin fond
Du Chili. Ouais.
de la
Alors, Ushuaia,
Patagonie.
je pourrais pas t'en parler vu que je suis pas arrivé. Mais là, ouais, il y a un désir de revanche, ça viendra un jour. Non, c'est incroyable les étendues qu'il y a déjà. Les déserts là-bas, c'est des vrais déserts. Le désert d'Atacama, c'est le désert le plus aride du monde.
Je crois qu'on le voit dans un James Bond, le désert
Lequel?
d'Atacama. Non, c'est en
Ah, le
Bolivie.
désert de sel. Ouais. Mais là, ça va, si t'as un pépin, t'inquiète pas, il y a tellement de bus que tu trouveras toujours un problème, une solution à ton problème. Ou au pire, tu fais du stop et ça va, tu peux rentrer. Mais moi, pour être honnête, ce qui m'a impressionné, c'est les États-Unis, que j'ai traversé par les Rocheuses, par la Great Divide. Et je suis arrivé bon français, avec mes préjugés énormes sur les États-Unis, et surtout sur la population américaine, en me disant, oh là là, c'est quand même un gros pays que je dois me taper pour mener à bien mon projet. Et en fait, j'ai été sidéré parce que tout le monde, là-bas, tout le monde vit soit des sports d'extérieur, soit de la pêche, soit de la chasse. Donc, c'est des personnes qui savent ce que c'est les hivers difficiles, qui savent ce que c'est l'altitude, qui savent ce que c'est la distance. Même en 4x4, ils arrivent à planter leurs 4 roues motrices, donc ils savent ce que c'est aussi de traverser ça à vélo. Et j'ai trouvé cette mentalité, vraiment ce côté entrepreneur ou positif américain à t'encourager, alors qu'ils sont pas du tout dans le même délire. Mais en fait, ça ressemblait un peu au Giro où les gens ils t'encouragent alors qu'eux ils sont en train de boire des bières et que toi tu viens de faire 250 bornes. Là-bas, c'est pareil, le gars il vient en soi juste de prendre son tracteur et de passer la journée dans son tracteur. Mais ce côté, tout ce que tu fais, c'est génial de manière exubérante hein, là-bas. Mais et ça, putain, c'est quelque chose qu'on a peu en Europe. Où beaucoup, ce qu'on me pose comme question, c'est, ah, mais comment tu dors? T'as pas peur? Comment tu fais avec le froid en Europe? C'est toujours, tu vois, une analyse. Ok, il va y avoir des problèmes. Comment j'y apporte des solutions? Alors que les États-Unis, c'est, waouh, c'est génial. Tu vas arriver quand? Tu t'es donné combien de temps? Et c'est toujours d'abord des questions qui sont dirigées vers comment est ton expérience et à quel point elle est bien, avant de se poser les questions. Ah, mais en fait, va y avoir des obstacles à surmonter. Et je pense, nous, on a une analyse bien plus, d'abord, on pose les problèmes, on analyse, et après, il va de soi que l'expérience sera bonne. Alors que ça aussi, c'est un truc qui revient souvent. L'expérience n'est pas nécessairement bonne. Il y a beaucoup beaucoup de voyageurs à vélo qui arrêtent leur voyage. C'est extrêmement dur, pas aux États-Unis, mais l'Amérique centrale. Toi, Panama, ça te fait rêver, mais wow, moi, si je devais le refaire, je m'y préparerais parce que c'est une culture quand même hyper agressive en termes de sonorité, en termes de culture, en termes de rapport à la femme, rapport aux voitures, rapport au sexe, rapport à la politique, rapport à l'alcool. Et ça, c'est des choses. Moi, j'étais là, ah, trop bien, le Costa Rica, ça, c'est 5% de la biodiversité mondiale. Ouais, mais clairement, j'ai trouvé ça très, très difficile. Et c'est là que j'ai vu beaucoup de gens qui voyagent aussi s'arrêter, en fait, et rentrer en Europe. Et ça, on le dit très peu, mais il y a beaucoup de gens qui font des voyages en long cours qui arrêtent parce que c'est difficile.
Qu'est-ce qui a été difficile au Costa Rica?
Et ben, va dormir dans une tente avec 100% d'humidité et 28 degrés la nuit. Et si tu ouvres les fenêtres, enfin, c'est pas des fenêtres du coup, si tu ouvres la moustiquaire, bah, c'est soit les moustiques, soit ton torse est un ruisseau de sueur.
Moi, je
Donc,
savais
une
pas.
fois que tu dors mal ou pas, tu es complètement irritable parce que tu es fatigué la journée alors que tu n'es pas censé
Oui,
l'être.
oui.
J'ai trouvé la population. Très très ouais fatigante, vraiment fatigante, toujours les mêmes sollicitations, les mêmes questions. Après, c'est lié aussi au fait que forcément tes voyageurs français au fin fond du Costa Rica, du Panama, tu suscites l'interrogation et c'est toujours les mêmes questions. Donc c'est aussi lié à ça et je pense que faut être prêt à le faire. Et moi je suis arrivé à un stade où j'étais plus prêt à le faire parce que
Ouais, t'étais
j'étais
au
au
bout en
bout.
fait.
C'est vraiment
Ouais.
T'es fatigué, du coup les gens te paraissent fatigants, ils le sont sans doute un peu aussi, mais c'est surtout toi avec quel.
C'est
Ouais, ouais,
exacerbé.
ouais. Et c'est une raison, moi, je suis arrivé au Pérou aussi, totalement mort parce que saison des pluies, donc j'essaie d'avancer le plus possible. Donc tu commences à faire 120, 130, 140 bornes avec un vélo à 50 kilos. Et après, le soir, tu te coltines les questionnements, en fait. Et à un moment, je suis devenu infect. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner, mais frais et prêt au partage. Parce que si tu n'es pas prêt à recevoir et à donner, pour moi, ce n'est pas la peine de partir en voyage. Parce que dans ce cas, ce n'est plus un voyage que tu fais. C'est de la consommation.
Oh ouais, le côté moustique, bah on l'a vu à la dure au Costa Rica dans un parc. On les sentait, tu sais, on sentait que ça bourdonnait autour de nous. On sentait vraiment les moustiques et tout. Alors déjà, je crois que c'est en Inde, on dormait entouré dans la moustiquaire. Tu sais, on l'avait même pas mise autour du nez. On
Non,
dormait carrément, on s'était enroulé dans la moustiquaire. C'était horrible. Mais au Costa Rica, ouais, dans les parcs, c'était dans certains parcs, en tout cas, c'était
c'est
assez
dur, hein.
terrible. Mais c'est un des pays que j'ai le plus aimé. Et je ne me souviens pas que les gens étaient aussi épuisants, en tout cas par rapport à l'Inde, en termes de nuisances sonores et de sollicitations diverses, d'agressions visuelles. L'Inde est vraiment au-dessus pour moi, et au-dessus de tout le
Ouais,
monde.
après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs à vélo qui citeraient l'Inde comme un des pays à privilégier à vélo. Et après, j'ai dit le Costa Rica, c'est tombé sur le Costa Rica, mais pour me corriger, le Costa Rica a été fatigant, mais c'est de loin pas le plus emblématique, hein. Alors les pays, vraiment difficiles, c'est le Guatemala, c'est le Honduras.
C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que tu vois, tu me parles de danger omniprésent, et là, tu vois, je me suis souvenu d'une station-service au Guatemala où on s'est arrêté, et la station était gardée par un mec armé. On sortait d'une plantation de cacao, parce que je travaillais donc pour un chocolatier, et on sortait de la plantation. Toute la plantation était gardée par des mecs en armes. Les mecs qui m'accompagnaient dans la plantation étaient armés, donc j'avais l'impression d'aller chez Pablo Escobar, hein, c'était hyper drôle. Mais tu vois, tu sens qu'il y a un tel écart de richesse à certains endroits qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça déraille, parce que la vie humaine n'a pas du tout la même valeur dans ces endroits-là, quoi. Parce que souvent il en va de la survie des gens ou d'une famille, et tuer ou rançonner quelqu'un pour piquer un peu de thune, c'est pas si important que ça. Et tu vois, au Honduras, il y a quelques années, il y a un photographe extrêmement connu français qui avait beaucoup bossé sur les gangs qui avait bossé pas mal sur ces trucs-là et qui avait essayé vraiment de pas de réconcilier, mais qui avait essayé d'amener d'un petit peu de dialogue. Un jour, il s'est fait buter. Et évidemment que c'est après le discours officiel, oui, il y a une enquête, on va essayer de savoir qui c'est. Mais attends, un meurtre au Honduras. Et puis, est-ce que tu as vu le documentaire sur John McAfee? Ah, mais regarde-le. La vie incroyable de John McAfee. Donc, le mec qui a créé l'antivirus, McAfee. Et après, à un stade de sa vie, il a déménagé au Belize. Et il y a eu tout un tas d'histoires de meurtres, de machins. Et c'est incroyable, tu vois. Et c'est des endroits où c'est sans foi ni loi. Et entre guillemets, malheureusement, le meurtre fait partie du mode de vie. Et la violence quotidienne, il y a une violence quotidienne qu'on n'imagine absolument pas. Enfin, en tout cas, moi, que j'imagine pas, même si je l'ai vu de temps en temps. Mais ça n'a rien à voir avec nos vies quotidiennes.
Ah oui, non, ça, c'est sûr. C'est pour ça que pour moi, c'est toi qui voyages, donc c'est à toi d'arriver avec le bon état d'esprit. Une fois que tu l'es plus, bah c'est toi qui prends cher, mais c'est pas eux qui sont en tort. Enfin,
ben oui,
bien sûr.
C'est leur mode de vie. Ils vivent, c'est juste un choc de culture et un choc culturel, parce qu'on n'est pas, on n'est pas habitué à vivre de cette manière-là.
Du
quoi.
Tout.
Et toi, en Espagne, pourquoi t'as arrêté alors? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta motivation en Espagne?
J'ai trouvé les routes infectes. Enfin non, pas les routes espagnoles. Il y a des très belles routes, justement, et j'ai trouvé ça très... Moi, je connais bien l'Espagne, j'ai vécu 4 ans, et je trouvais ça tellement dommage de passer par la route côtière devant le désert de plastique d'Almérie pendant 90 km, alors que sur ma droite, je voyais la Sierra Nevada, qui est le col routier le plus haut d'Europe, et me dire, non, ça fait 9 jours que je fais des bornes pour borner, ça n'a plus aucun intérêt. J'ai 3 jours d'avance sur la Vuelta, et je me suis dit, mais en fait, non, tout ce que je fais depuis 4-5 ans, depuis que j'ai mon diplôme, c'est ma liberté, c'est mon plaisir, c'est un style de vie que j'ai choisi, tu vois. Et je dis là, juste pour un projet que tu t'es mis en tête, tu vas continuer à rouler sur des nationales à deux voies alors que tu connais pas le Portugal et c'est la porte d'à tout côté, alors qu'il y a des super belles montagnes en Castille-Léon que tu peux découvrir. Ça, ce que tu fais, enfin ce que je faisais à ce moment-là n'a eu aucun sens. Et en fait, ça s'est manifesté tout simplement où un matin, je me réveille et en fait, j'ai dit, j'ai pas besoin de raison. C'est voilà, hier, fini la 9e étape. Aujourd'hui, les pros, ils ont un jour de repos. C'est-à-dire que, en fait, j'ai tenu jusqu'à la 9e étape, mettons-le plutôt comme ça, parce qu'il y avait de l'adrénaline. J'étais toujours dans le stress de me dire, OK, il faut que j'ai ma marge devant eux. En fait, je suis parti après eux aussi. Je l'ai fait à la clan sur la Vuelta. Et voilà, je les ai doublés la première nuit. Et en fait, je regarde mon Strava et je vois 2000 km dans la semaine. Et je me dis, t'aurais pu en faire 1500, c'était très bien. T'aurais pu en faire 2500, c'était très bien aussi. Mais ça n'a plus de sens. Et le jour où eux, les pros, ont eu leur premier jour de pause, je me dis, OK, moi, si je roule une journée normale, 200 bornes, en fait, je me retrouve déjà avec deux jours et demi d'avance. Donc, pour moi, c'était un peu comme si c'était déjà gagné. Et j'ai fait, y a plus rien qui m'anime à faire ça. Enfin, m'infliger 200 bornes de trucs pas cool qui me plaisent pas juste pour le finir, j'ai pas envie. Et j'ai bifurqué.
Ouais. Et là, t'as fait quoi? T'es parti où?
Je suis parti, je me suis d'abord amusé sur les hauteurs de Grenade, et après je suis parti vers l'ouest, Portugal, l'Algarve. Je suis remonté jusqu'à le massif de Estrela, au Portugal, et après j'ai rallié le Pays Basque. Bon, vite fait, Pays Basque, et voilà. Qui, de toute façon, la Vuelta finissait à Compostelle. Donc, de toute façon, géographiquement et temporellement, à 10 jours près, j'étais là où j'aurais de toute façon été en continuant la Vuelta. Donc, ça n'a pas du tout influencé mes rendez-vous ou mes engagements que j'avais de toute façon prévus après la Vuelta. Parce que je suis resté dans le même programme géographique et chronologique. J'ai juste fait à mon rythme et surtout géographiquement là où ça m'intéressait plus. Voilà.
C'est bien de finir à Compostelle, c'est un beau symbole.
Et j'ai trouvé, bah du coup moi j'ai pas fini, mais j'ai trouvé l'idée assez sympa. Ouais. Surtout qu'en fait j'avais trouvé l'avant-dernière étape du Giro très intéressante parce qu'il y avait foule. Et en fait, après je suis descendu à Milan et je pensais que ce serait génial, plein d'émotions. J'ai fini le premier tiers de mon projet et en fait, c'est con à dire, mais on s'en fout de ta gueule hein, à Milan. C'est comme si tu arrivais à Paris après ton Tour de France. Si t'es pas ultra médiatisé, t'es totalement perdu dans la foule. Et en fait, l'émotion, elle est très, très. Parce que ah, c'est très, très étrange. Donc en fait, je pense que arriver à Compostelle, c'est beaucoup plus humble comme arrivée. Et du coup, tu t'attends. Évidemment que tu t'attends pas à ce que les gens y fanfaronnent pour toi, mais tu t'attends à rien. Alors que quelque part, tu dis, putain, je vais finir à Milan, c'est quand même génial. Et en fait, c'est pas génial du tout. Parce que ouais, bah, c'est comme si tu rentrais de ta sortie de 40 bornes. Voilà. Et puis oui, Compostelle, c'est plein de. C'est emblématique.
Quand
Mais
même,
c'est
oui.
pas. Enfin, c'est voulu, hein.
C'est
Je
voulu
pense que les
pourquoi?
organisateurs ne se sont pas dit, ah, Compostelle, ce serait
Ah
bien.
bah
Ils ont démarré à Burgos aussi parce que c'était le. Je sais plus quel anniversaire de la cathédrale. Bref, il y a. Tout a du sens. Et je trouve aussi que sur le Giro et la Vuelta, il y a justement des clins d'œil comme ça, des sens. Ils essayent de mettre du sens historique dans les tracés. Du moins, c'est ce dont j'ai l'impression. Le Giro, au départ, c'est quand même traverser l'Italie par les régions les plus oubliées économiquement. Au tout début, ça a un peu changé, mais c'est encore le cas. Et le Tour a moins cette saveur-là. Le Tour, c'est le spectacle, le spectacle, le spectacle.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le Giro a un petit peu plus de dramaturgie. Le Tour, c'est quand même plus le gros rouleau compresseur, la grosse machine. Donc il y a le prestige et tout, la méga pression. Mais puis on le voit, tu vois, les coureurs qui pètent un peu un cap sur le Tour après plusieurs années, plusieurs tentatives, ils ont envie d'aller sur le Giro, la Vuelta, parce que c'est moins la pression. Bon, il y a d'autres contraintes, il faut affronter les supporters italiens qui sont pas toujours super fair play, mais avec les étrangers, mais ça, bon, ouais, c'est de bonne guerre, hein. On l'a vu il y a 2 semaines au championnat du monde. Les Belges n'ont pas été très très fair play avec Julien, donc c'est pas non plus. Et puis le chauvin, être chauvin, et ben ça arrive. Et puis voilà. Dis donc, je pense qu'on a fait le
Eh ben,
tour.
on a fait le tour.
Moi, je suis vraiment content qu'on ait réussi enfin à faire un
T'es
truc ensemble.
soulagé un peu?
J'espère qu'on arrivera. Non, je suis pas soulagé. Je savais que ça arriverait. Tu sais, je suis plutôt patient et résilient, et je me dis que quand ça n'arrive pas, c'est parce que ça doit pas arriver maintenant, et que quand le bon moment est arrivé, eh ben
Je
le bon
crois que
moment
t'es
arrive,
fait pour
et
le
voilà.
bikepacking, toi. Parce que si tu pars avec cette mentalité, t'es bien parti quand même. S'il
Voilà,
doit
bah écoute.
pleuvoir à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il doit pleuvoir à ce moment-là, tu
Ouais. Alors tu sais quoi, je vais te répondre. Ma seule réponse, ça va être le
vois.
dinosaure de ma fille. Voilà, regarde. Le dinosaure sur lequel elle rebondit, et voilà, ça sera ma réponse, tout simplement. Bon, mon petit Max, tu connais la règle. Alors il y a une règle nouvelle. C'est moi je vais te laisser pour ta minute de solitude. Tu dis et fais ce que tu veux. En plus, c'est en caméra, donc en plus tu peux nous faire une chorégraphie, danser, etc. Donc tu vas dire ce que tu veux. Tu restes devant ton ordi, tu parles et tout, tu fais ce que tu veux. Et quand tu as fini, tu ne fermes rien et tu laisses ton ordinateur tourner. D'accord? Tu ne fermes pas ton ordi, tu fermes pas cet onglet de navigateur et tu laisses tourner. C'est moi qui te dis quand tu peux
Ça
le
roule,
faire.
Richard.
Ok? C'est moi le
Allez.
chef. J'adore. En plus d'être un branleur. Bon, Max, merci
Merci à
beaucoup
toi
et
et
à
à
très
très
bientôt.
vite. Ciao.
Salut.
J'attends. J'attends.
Je
Tant que t'as
prends le
pas disparu
micro.
de l'écran, je dirai rien. Ok, c'est bon. Bon, voilà. Je suis seul. Il a coupé la vidéo, donc en plus, je vois plus rien. Je vais rien dire d'extraordinaire, peut-être des choses banales, mais on n'a qu'une vie, il faut la vivre à fond. Et moi, depuis le jour où j'ai réalisé ça, en fait, C'est incroyable, on se met plus de limites. Il n'y a pas de rêve qui soit trop grand pour vous. On s'en fout d'échouer. C'est plein de baratins comme ça que j'aimerais transmettre, en fait, qui sont véhiculés déjà par plein de gens et qu'on semble écouter d'une oreille et laisser ressortir de l'autre. Mais on est une des premières générations à vivre, en tout cas en France, en paix et libre. Et je trouve ça tellement triste et désolant souvent de voir les gens passer à côté, rentrer dans un système qui ne leur convient pas forcément. Alors ça, je dis pas que le système convient à personne, mais voilà, c'est des choses comme ça. On a la chance d'être libre et je pense que la plus belle chose qu'on peut rendre à ceux qui nous ont offert cette liberté, c'est d'en bénéficier, d'en jouir. Et voilà, on se retrouve sur le vélo, je l'espère. Ciao. Merci.